Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, canal 23. Vous êtes dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Pierre-Édouard Magnan avec vous, bien sûr, au 32-16 et sur l'application RMC pour nous dire ce que vous pensez de la nouvelle indemnité carburant, nouvelle indemnité ciblée uniquement pour les Français les plus modestes qui effectuent un trajet long pour aller au travail. Est-ce que c'est injuste? Vous nous donnez bien sûr votre avis au 32-16. 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, le journal décalé de Paul Lassalle, qui a fait le tour de la presse quotidienne régionale à 14h. Vivement. Les retours des Michel, Sardou et Paul Naref. Une tournée pour le premier, un nouvel album pour le deuxième. Est-ce que c'est formidable ou pathétique? 14h30, RMC s'engage pour vous avec du nouveau dans le dossier Revolut. Vous savez, cette banque qui refusait d'indemniser une victime de fraude à la carte bancaire. Et puis peut-être, Rémi, qu'on ouvrira le coffre RMC pour la dernière fois de la semaine.
Ça approche à grands pas le début de la Coupe du Monde. C'est dimanche. RMC vous offre le meilleur équipement high-tech pour l'occasion. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec le téléphone Samsung Galaxy M23 et avec le visioprojecteur portable qui va vous permettre de regarder tous les matchs de la Coupe du Monde où vous le souhaitez. Et à ce moment-là, bien vous avez le choix. Soit vous gardez ce très beau cadeau, soit vous y renoncez, mais alors vous pouvez ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Pour jouer, vous envoyez coffre par SMS au 732-16, coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
13h05 sur RMC et on s'intéresse maintenant à l'annonce du jour. C'est celle d'Elisabeth Borne, la Première Ministre, qui a tenté de détailler son nouveau dispositif en faveur des automobilistes pour remplacer, bien sûr, la fin de la ristourne gouvernementale sur les carburants. Rémi, on ne va pas se mentir, on n'a pas tout.
J'ai mal à la tête, Estelle. Non, j'ai regardé ce matin. Alors jusqu'ici, c'est vrai que les contours du dispositif étaient assez flous. Aujourd'hui, on va dire qu'il reste encore assez vague. Ce que l'on sait de cette indemnité carburant travailleur, c'est son nom. Déjà, c'est une info.
Super.
C'est qu'elle bénéficiera aux ménages se situant dans les 5 premiers déciles de revenus. C'est ce qu'a dit hier la Première Ministre Elisabeth Borne. Pour faire simple, ce sont les ménages les plus modestes et la classe moyenne sont environ la moitié des foyers français. Plus précisément, cette aide ciblée doit concerner les gros rouleurs et les gros bosseurs. Elle ressemblera beaucoup à l'aide prévue par le gouvernement cet été et finalement abandonnée pour la ristourne pour tous de 30 centimes d'euros par litre de carburant qui est en train de disparaître. L'été dernier, donc, l'exécutif imaginait une aide de 100 à 200 euros en fonction des revenus de chaque personne. Elle devait concerner les salariés, apprentis, agents publics et indépendants. Le gouvernement prévoyait d'y assortir un bonus pour les gros rouleurs de 50 à 100 euros. Pour y avoir droit, ce qu'on sait, c'est qu'il faudra se rendre sur un site internet dédié, rentrer ses informations personnelles, ses revenus, le nombre de kilomètres parcourus pour aller au travail, le numéro de la carte grise de votre véhicule. L'aide devrait ensuite être versée en quelques jours sur le compte bancaire de chaque bénéficiaire. Une enveloppe d'1,5 milliard d'euros a été allouée à la mesure dans le budget 2023. Enfin, on a bien compris qu'il y a encore beaucoup de choses à préciser.
Alors, cette mesure est-elle injuste? C'est la question qu'on vous pose. Emmanuel Dancourt.
J'écoute Rémi et je me dis, mais où je suis dans tout ça pour me centrer, excusez-moi, sur moi. Moi, je suis quelqu'un qui fait partie de la classe moyenne. C'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on gagne beaucoup d'argent. Et je suis pas à plaindre, mais je suis pas non plus très riche. Et je me dis, à coup sûr, je vais tomber pile au milieu du mauvais côté.
Évidemment,
parce
comme
que comment je prouve, gros, alors je sais pas ce que ça veut dire, moi, gros rouleur, gros bosseur, je bosse comme une tarée, je roule beaucoup, mais comment je le prouve quand je vais remplir mon formulaire là? Comment je prouve que je fais tant de kilomètres par semaine, par an, sans doute plus, si je le déclare pas forcément aux impôts?
Mais toi en plus, tu es un journaliste indépendant, donc t'as pas de bureau, mais sinon,
d'accord.
Je pense que tu donnes l'adresse de ton domicile, l'adresse de ta société, enfin j'imagine.
Oui, mais moi, avec mon statut d'indépendante là, qui peut être un statut très bâtard. sur certains dossiers comme celui-là, à coup sûr, je vais tomber du mauvais côté de la barrière. Donc moi, je me dis, j'aurais préféré que tout le monde y ait droit, même les plus riches, parce que ça ne m'ôte rien que les plus riches ils y aient droit.
On garde la risque.
Par contre, ben, ouais. Bien. Par contre, là, ça va très clairement. Mais je suis pas toute seule. Je parle au nom de tous ceux que je représente. On va être très très nombreux qui auraient eu besoin, mais on va pile être juste derrière la limite et on va pas y avoir droit. Donc je comprends pas.
Moi, j'ai une très fine analyse à faire, Pierre-Edouard, c'est qu'en fait, c'est tellement compliqué que les gens, en fait, vont renoncer avant même d'avoir essayé, et comme ça, il n'y aura pas de ristourne. C'est malin, quand même, la part du gouvernement.
Le non-recours aux droits inventés par les politiques est une source de fortune. Hein.
C'est une vingtaine de pourcents des prestations sociales qui devraient être versées ne le sont pas, parce qu'elles ne sont pas réclamées.
Ça représente
10 milliards d'euros chaque année non dépensés par l'État.
Mais en début d'année, c'est budgété à 100%, ce qui permet de récupérer les économies. Ça, c'est d'autres sujets. Effectivement, on craint l'usine à gaz. S'ils veulent arrêter de faire des ristournes sur le produit, il faut effectivement passer par le système fiscal, y compris pour ceux qui ne payent pas leurs impôts. Mais aujourd'hui, avec le prélèvement à la source, même quand vous ne payez pas d'impôts, vous êtes connu de l'administration fiscale. Et sur ce biais-là, de décider qu'on gère un peu au niveau des revenus. Parce que, alors après, on peut discuter du cinquième décile, du sixième décile, etc. Bon, après... ça, on peut en débattre. Mais il faut utiliser l'administration fiscale en disant au moins à partir d'un certain niveau de revenu. Parce que j'ai envie de dire, on exclut les retraités. Mais des retraités qui font soutien de famille, on disait naguère, qui vont chercher des enfants, etc. Je trouve ça toujours un peu délicat.
Exclut les chômeurs également.
Je te remercie Estelle, je faisais exprès de pas attaquer par les chômeurs. Mais évidemment, les chômeurs, c'est vrai que comme ils boivent des bières devant leur télé en regardant les matchs de foot, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin d'aide pour faire de l'essence. Donc ça doit sans doute être ça l'idée du gouvernement, comme d'habitude. Donc utilisons l'administration fiscale, qui est une administration absolument merveilleuse. Utilisons le système du prélèvement à la source, qui permet aussi de faire des versements à la source, puisque ça marche dans les deux sens. Et si on veut faire du revenu, on peut évidemment essayer de faire une droite, c'est-à-dire que ceux qui ont le moins et plus que ceux qui ont beaucoup. Des gens qui sont dans les trois ou deux derniers déciles, s'ils reçoivent pas d'aide, au fond, ils s'en foutent un peu, à mon avis. D'ailleurs, donc c'est pas un sujet. Mais en revanche, qu'on fasse quelque chose de simple. S'il faut commencer à faire une demande, s'il faut commencer à déclarer des choses, s'il faut qu'on s'en mette à prouver ce qu'on déclare, parce que déclarer des choses encore, mais il faut le prouver, c'est absolument imbitable. Et en plus, sur l'aspect des déplacements, le bureau, ça c'est bien pour les gens qui sont salariés dans un lieu de travail fixe.
Voilà.
Mais prenez, je vais prendre une infirmière libérale, par exemple.
Un artisan.
Elle a un cabinet, en général. Mais c'est déclaratif. C'est pas son trajet, c'est pas son cabinet.
Mais c'est déclaratif. C'est comme lorsque vous faites votre déclaration. Lorsque vous faites votre déclaration de revenus, si vous déclarez en revenu réel.
Bien sûr.
Vous faites beaucoup de kilomètres. C'est déclaratif.
C'est-à-dire que vous êtes. Encore faut-il faire une déclaration de revenus.
Non, mais bien sûr. C'est basé sur la bonne foi du déclarant. Et si un jour il y a un redressement fiscal, par contre, un contrôle fiscal.
La bonne foi du déclarant, globalement, le système fiscal français fonctionne là-dessus. Et s'il fonctionne là-dessus, les fiscalistes n'étant pas des philanthropes, c'est que globalement ça marche. La immense majorité de gens ne mentent pas dans leur déclaration d'impôt. Et j'ai dit en plus, l'avantage du déclaratif, c'est que ça légitime le contrôle. On vous a fait confiance, quand on vient vous contrôler, on est très légitime à vous dire, vous nous avez raconté des cracks.
Franchement, Perico, quand on voit ça, on se dit pas, finalement, ils auraient dû tout supprimer, qu'on aurait été plus simple.
D'une part, je me dis que tous les moyens sont bons pour éviter de prendre la seule mesure efficace qui est de repenser la fiscalité sur les carburants.
Mais complètement.
C'est une telle manne pour l'État que, voilà, mais en fait, c'est tout budget d'État qu'il faut repenser. Mais la solution la plus équitable serait évidemment de soustraire, de vendre la matière première qui est ce carburant à son prix réel, avec une marge, une TVA si on veut. Voilà. Et là, ça prendrait de proportion. Donc là, le gouvernement est enfermé dans une logique où il est obligé, c'est ce qu'on a dit la dernière fois qu'on a évoqué, ces gens qui avaient, donc entre la remise totale et l'État, c'était 50 centimes de moins par litre, et du jour au lendemain, on dit, ben vous n'avez plus besoin, mais si, ils en ont encore plus besoin, et c'est des gens qu'on a sortis de la piscine et qu'on dit, ben on tombait dans la piscine. Donc c'est-à-dire qu'on les a sauvés quelques mois, et on les redonne, on les replonge dans leurs conditions, et donc le gouvernement était obligé de proposer une réplique. Effectivement, les dossiers qui vont être déposés, de ceux qui vont arriver à les remplir, vont être infiniment inférieurs à ce qu'ils auraient pu être si la mesure avait été générale. Alors.
De toute façon, l'objectif ultime du gouvernement, Bruno Le Maire ne cessait de répéter, c'est que le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, que les recettes publiques ne peuvent pas supporter la charge de la ristourne. Il faut savoir que la ristourne de 30 centimes d'euros par litre de carburant, ça coûtait grosso modo 1 milliard d'euros par mois aux recettes fiscales. Bah, là, cette mesure, elle va coûter à peu près 1 milliard et demi d'euros sur l'année 2023, enfin en tout cas si il y a qu'une versé qu'une fois après cette
absence versée. Maintenant qui veuille cibler, au départ la démarche elle est respectable, on va cibler vers les plus pauvres. Mais comment vous les détectez, comment vous les repérez? Donc on sait très bien que c'est une promesse qui permet de tenir.
Usine à gaz.
On est avec Bastien qui nous appelle d'Arcachon et qui est chef d'entreprise. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Bonjour. Bastien voulait réagir sur ce débat, sur cette nouvelle allez, mesure carburant d'Elisabeth Borne. Est-ce que cette mesure, elle vous semble juste ou injuste ?
En fait, moi, je trouve que l'ensemble de tout ça, est, pour moi, est la pure tartufferie, en fait, dans le sens où...
J'aime bien ce mot, tartufferie.
On sait très bien que le prix du carburant, quand on fait un budget, on prend un point en se disant, bon, il sera à peu près de temps, ce qu'ils ont fait dans le cadre du budget. Je crois que c'était 1,67 le dernier budget. Donc on sait qu'il y a une surperception de taxes qui est liée à l'augmentation du prix, c'est mécanique.
Bah oui.
Et je trouve que tout ce discours avec on nous fait des ristions, d'ailleurs on se demande qui nous les fait parce que l'État c'est quand même nous, comme disait Coluche, c'est nous qui paye. Donc on nous fait croire qu'on nous fait des promos, on nous a donné 30 centimes, bah merci mon Dieu, fallait pas vous déranger. Mais en attendant, il y a quand même surtaxe si ces gens savent pas gérer leur budget, c'est autre chose. Mais de toute manière, ça a pas un coût. Là j'entendais Rémi, je crois son
prénom. Non, c'est un manque à gagner.
Qui disait ça coûte 1 milliard, non ça coûte pas 1,5 milliard, avec le surplus de taxes qu'il y a eu, ça coûte pas 1,5 milliard.
Oui.
Ça leur enlève 1,5 milliard sur
le bénéfice. Voilà,
c'est le manque à gagner en fait.
Donc,
c'est ça.
On nous met petit à petit dans la tête que ce serait presque des cadeaux. Moi j'ai vu la queue il y a 2 jours, mais comme disait l'autre, les Français sont des veaux. Ils étaient là parce qu'ils allaient perdre 20 centimes à faire la queue. Et nous, chefs d'entreprise, d'ailleurs, moi je suis artisan, je suis paysagiste, donc j'ai des machines qui tournent à l'essence, j'ai des camions qui tournent au gasoil. Là, on n'en parle pas. Et on voit qu'Elisabeth Borne, on voit d'où elle vient. C'est-à-dire c'est des vieilles ristournes, des réflexes de son passé.
C'est les ristournes de papa, quoi.
Et puis surtout, la bonne gauche à l'ancienne, c'est-à-dire nous allons favoriser les petits, tout ce discours, ça n'a aucun sens. C'est qui les petits ? C'est ce que disait votre intervenante. Elle va être certainement au milieu du seuil. On aura encore des gens qui vont faire. Et puis ça n'a aucun sens. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens.
Oui. Et qu'il serait simple de dire
le prix de l'essence aujourd'hui, on enlève les taxes provisoirement et puis ils apprennent à gérer le budget.
Bah, au moins la taxe sur la taxe.
Je peux vous dire que c'est mort-né. Ça durera 15 jours.
Ils trouveront autre chose. De la prime,
Mais il fallait bien dire quelque chose.
Mais en fait, le problème de ce gouvernement, il ne fait que des mécontents. Enfin, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que là.
Mais il le fait bien. Ils sont très mécontents.
Oui, mais c'est bricolo-bricolette, quoi. C'est du bricolage dans ce domaine.
Petit point commun avec toi, Perico, en fait. Tu sais nous mécontenter, mais tu le fais tellement bien.
C'est hallucinant. C'est-à-dire que, en fait, t'avais d'autres choses à faire. Enfin, je ne suis pas au gouvernement, mais soit tu baissais la taxe, tu contentais tout le monde. Bon, ça aurait été formidable, mais bon, voilà. Soit, effectivement, tu disais, c'est juste pour telle catégorie de personnes, mais au moins tu ciblais et il y avait une catégorie de personnes qui étaient contentes. Mais là, comme de toute façon, personne ne sait s'il appartient à cette catégorie, donc personne n'est content. Tu ne fais que des mécontents. T'essayes de faire un cadeau, mais personne n'est content. Enfin, c'est quand même fou. Donc voilà, et ça touche toujours à côté. Enfin, c'est quand même incroyable.
Parce que c'est mal pensé.
Notre invité sur ce débat, c'est Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonjour Yves.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
On n'est pas content sur le plateau. Yves, on n'est pas content. Est-ce que vous êtes heureux ou pas de cette nouvelle mesure ?
Mais il y a des choses vraiment passionnantes qui sont dites à chaque fois dans votre émission. Votre dernier auditeur.
Il était très bien.
J'ai entendu effectivement que c'était une stratégie d'évitement pour ne pas baisser les taxes. Ça, c'est vrai aussi. Parce que la seule et vraie et unique solution pour que tout le monde puisse en profiter. Et on va pas aller mettre notre argent dans un paradis fiscal. Tout ce qu'on va pas mettre dans le carburant, on va le mettre dans l'économie française. On va aller au resto, on va aller plus de choses. Donc, et puis, vous savez, s'ils font ça, c'est parce qu'ils se disent, bon, ça risque de créer une injustice parce que les plus riches, voilà, comme s'il y avait
SUV
que des Ferrari
dans
les rues. Oui, comme s'il y avait que des Ferrari dans les rues. Vont aussi profiter de cette baisse. Ben, si vous voulez. Tant qu'à créer une injustice, moi je préfère cette injustice-là, entre guillemets, que les plus riches vont en profiter, plutôt que ceux, comme on l'a dit, qui sont juste à côté de la frontière, qui sont peut-être des retraités, qui doivent aller garder leurs enfants, ou vous avez des tas de raisons dans une vie privée de faire beaucoup de kilomètres, eux ils vont être de l'autre côté et on va créer une injustice. Alors,
merci Yves Cara, c'est exactement ce que je disais.
Je préfère l'injustice, injustice entre guillemets, pour les plus riches, et que tout le monde puisse en profiter. C'est la seule et unique solution. Je rappelle que sur 2 litres de carburant, il y en a un. Enfin, sur 2 euros de litre de carburant, il y en a un qui va à l'État. Donc, comme je l'ai entendu, effectivement. Alors, on dit souvent, il y a des sociétés qui en profitent. Mais le premier qui en profite, c'est l'État, qui prend beaucoup plus d'argent. Donc, plutôt que de nous le prendre et nous en redonner un peu, ne nous le prenez pas, on va savoir l'utiliser, ne vous inquiétez pas.
Rémi, vous avez plein de messages sur ce sujet.
Comme celui c'est un peu bizarre, de Shawashi sur Direct Studio qui nous dit c'est une mesure injuste, c'est la classe moyenne qui en fait les frais. Personnellement, je touche 2200 euros par mois, marié, 3 enfants, mais avec un budget de plus de 500 euros de carburant par mois, 170 km par jour travaillé, je suis convaincu que je n'aurais pas le droit à cette aide.
Ouais, et voilà, et c'est ça en fait, ouais. C'est que les gens n'arrivent même pas à savoir s'ils vont être bénéficiaires de cette aide ou pas. On a Mathieu qui nous appelle de Moulins dans l'Allier. Bonjour Mathieu.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe. Bonjour.
Et vous n'êtes pas content du tout Mathieu?
Ben non, pas du tout, hein, parce que moi je suis, comme j'expliquais à Thomas, je suis reconnu handicapé. Donc je touche la AAH, donc allocation adulte handicapé, ouais. 956 € par mois, donc déjà on va pas bien loin avec ça. Et en plus de ça, je vais chercher ma fille tous les jours, donc je fais à peu près 50 km par jour minimum pour aller chercher ma fille et l'emmener à l'école.
Allez.
Voilà, donc parce que sa maman a fait le choix d'aller habiter en dehors de la ville, et sa maman n'ayant pas le permis, donc du coup je m'occupe de ma fille et je l'emmène à l'école tous les jours. Donc c'est 50 km par jour et là aujourd'hui avec le gasoil, ça commence à tirer quoi.
Bien sûr. Vous êtes à 2000 km par mois, j'étais en train de calculer.
Voilà. Ouais, c'est à peu près ça.
Ça fait un énorme budget à essence.
Sur une année, j'ai calculé, je fais un peu entre 28 et 30 000 km par an.
Ah oui.
Voilà. Donc.
Mais c'est ça qui est dingue. Vous ne serez pas concerné par cette mesure parce que donc vous n'avez pas de trajet long pour aller au bureau.
Non, vous n'êtes pas un gros bosseur. Vous êtes un gros bouleur, mais pas un gros bosseur, Mathieu. C'est pas bien.
Oui, c'est pas un gros bosseur. Enfin, il fait pas d'effort.
Ouais. Enfin, on se demande si
aucun effort, Mathieu. Franchement,
et on se demande si le gouvernement consulte avant de prendre des décisions. Enfin, c'est quand même fou, quoi.
Ouais. Bah non, alors il consulte pas. Il y en a un qui a une idée dans un coin. Alors ils vont la lancer. C'est là où on voit aussi. C'est un phénomène qui est toujours intéressant, qui existe depuis des décennies, mais on le voit de plus en plus aujourd'hui à la télé, c'est cette déconnexion permanente entre des gens qui nous dirigent et les réalités du terrain.
Parce qu'on peut des fois écouter même en podcast, tu vois.
On peut des fois prendre des décisions qui ne sont pas populaires, mais quand on les prend, qu'on explique qu'il y a une vraie raison, ça peut être une ligne politique. Là aujourd'hui, on est dans la gribouille, la réaction. Ils ont des idées dans un coin. C'est ça, et moi, je leur reproche pas de pas conduire, je reproche pas à la première ministre de pas aller faire son plein elle-même. J'irai à autre chose à faire et je ne paye pas pour aller faire le plein. Mais donc, je suis pas dans la démagogie de vous dire ah, ils savent pas ce que c'est de gagner. Elle l'a sans doute fait dans sa vie, elle le fait plus, elle a autre chose à faire. Mais en revanche, il y a plus de remontée de la réalité du terrain. Il y a cette déconnexion complète avec les gens. Effectivement, un chômeur, il fait pas rien. Un handicapé, c'est pas un petit bosseur. Un retraité, c'est pas un inutile. Je sais bien que l'INSEE dit que ce sont des inactifs indemnisés. L'expression est affreuse.
C'est un peu, je peux me permettre, c'est un peu caricatural quand même. La France, je le rappelle, en vertu des mesures qui ont été prises par le gouvernement actuel et depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est le pays en Europe qui a réussi à maintenir, à contenir l'inflation au plus bas, même si elle est énorme, mais quand même comparé à d'autres pays. Et hier encore, on a fait un sujet sur la pauvreté. Et le Secours catholique dit lui-même que les boucliers et les aides ciblées qui ont été mises en place par le gouvernement ont quand même permis d'atténuer, en tout cas de contenir l'explosion de la pauvreté.
On va essayer de parler solution. Alors, c'est une solution.
La baisse des taxes, voilà.
Alors, non, ça c'est le pansement. Bon, c'est vrai que c'est le pansement. Mais là, non. Est-ce qu'on peut repenser aujourd'hui l'aménagement du territoire? Où habitent les gens? Les dossiers de Fourquet et de Guilly qui disent bien, voilà, il y a des gens à qui on leur a imposé d'habiter loin de leur lieu de travail. C'est-à-dire, les créations d'emplois et l'activité économique est toujours dans un milieu urbain, dans une agglomération. Par contre, pour des raisons de prix du mètre carré, on leur dit d'aller de plus en plus loin et ils ont besoin de leur voiture. Il n'y a plus de service public, il n'y a plus de commerce de proximité. Donc la voiture devient un outil primordial et on dit à l'automobiliste, tu es un salaud, tu es un pollueur et en plus il faut payer du carburant. Les gilets jaunes, c'était ça le problème, c'est que le citoyen automobiliste, je parle du pauvre, pas celui qui a une SUV, dont l'automobile est l'outil vital sur lequel il ne peut rien faire, il peut pas vivre, eh bien ça le pénalise doublement. Et là, on dit maintenant, on va aider ceux qui travaillent un peu plus par rapport à ceux qui travaillent un peu moins. Mais sur quels critères? Moi, je pense qu'ils doivent consulter, mais des psychanalystes, pas forcément des psychologues.
Ils ne consultent pas les bons, manifestement.
Eh ben, pas les bons, ouais.
Des messages, Rémi.
Oui, mais il y en a beaucoup, en fait, parce que vrai, on l'a dit tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a des gens satisfaits? Parce que j'ai l'impression que non.
Non. Je n'en vois pas.
Ça s'exprime toujours beaucoup moins.
Et en fait, il y a une véritable inquiétude, parce qu'on le sait, les prix des carburants sont très, très élevés depuis la diminution de la ristourne. Ça va encore être pire en janvier. Et beaucoup sont inquiets en fait de ne pas rentrer dans le cadre de cette aide. Il y a des aides à domicile qui nous écrivent, il y a des intérimaires.
Bien sûr,
des intérimaires qui nous disent parfois il m'arrive de ne pas faire beaucoup de route. Donc est-ce que j'aurai le droit à cette aide alors que deux semaines plus tard ou un mois plus tard, je peux être amené à en faire beaucoup. Enfin, comment ça va se passer? Et en fait, les gens sont très inquiets.
C'est une usine à gaz.
Merci Mathieu, en tout cas, pour votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Et on espère que vous ferez partie des gens ciblés pour pouvoir recevoir cette aide. Yves Cara, on voit que ça ne satisfait personne. Hein, donc, finalement, mais on est tous d'accord pour dire que le seul truc qui satisferait tout le monde, c'est la baisse des taxes, même si c'est une petite baisse.
Les taxes, on parle de délire fiscal, nous, depuis très longtemps, l'Automobile Club, c'est vrai. Alors maintenant, allez, je vais vous donner une petite question, si je puis dire.
On vous entend mal, là, Yves. Vous avez changé de, ouais, de point.
Est-ce que vous m'entendez mieux, là?
Oui, c'est mieux, oui.
Mieux. Une petite information, quand même.
Non, on vous entend
plus
du tout,
là. On a vu l'info, Yves. L'info. Ah.
Non, il faut vraiment vous bouger. Ça avait l'air très important, là, ce que vous disiez.
Oui.
Et, ah, oui, voilà. Alors, allez-y. Ne bougez plus. Non, on vous entend plus, là.
Ah.
Ah. Oui, non, toujours pas. Rappelez-nous un téléphone.
On va essayer de le rappeler et puis si jamais qui donne l'info en.
Qui donne l'info au standard et on la relaiera.
Teasing, ce suspense.
Je crois quand même. Enfin, pardon, mais ça fait un an et demi que je prends cette émission. Je crois que c'est la première fois où on n'a pas un témoignage. Un seul témoignage d'une personne satisfaite. D'habitude, vous avez toujours un ou deux quand même qui surnagent. Là, c'est zéro, mais c'est quand même hallucinant.
En général, quand on est content de quelque chose, on le dit à trois personnes, et quand on n'est pas content, on le dit à 11. Donc, on peut quand même imaginer que des gens auraient pu nous appeler malgré tout. Eh ben,
mais ils ne l'ont pas fait.
C'est vrai que manifester sa satisfaction sur ce dossier-là, c'est prendre des risques énormes.
Oui.
Parce qu'on sait quand même que c'est un sujet qui horripile la majorité de la population, et que malgré tout,
où les gens n'en ont
la ristourne va être de combien voilà. D'ailleurs. La ristourne pour les dossiers les plus généreux porteront sur quelle somme?
Pour l'instant, on ignore.
On a même pas la somme.
On ignore ce qu'on sait. C'est que ça pourrait ressembler au dispositif qui était prévu cet été, qui n'a pas finalement été mis en place. Donc ça pourrait être 100 à 200 euros en fonction des revenus.
Donc c'est une prime annuelle que l'on donne.
C'est par à coup. Elle pourrait être renouvelée, mais ça sera un versement en une fois. Et puis par la suite, on verra.
Non, tu vas pas loin, tu fais même pas un plein.
C'est pas une
décision. Vous voyez, il faudrait mettre l'argent sur le compte de l'essence.
Non, mais ça, mais on est d'accord. Rien ne va.
A priori, entre 50 et 100 euros.
À mon avis, il y a quand même un énarque derrière, je suis sûr.
Pour un truc aussi con.
Plusieurs. Ah oui, ou taré, ça doit être un énarque. Un bon énarque,
ingénieur des ponts. Vous avez trouvé Yves Cara.
Yes,
Yves. Vous étiez en train de nous dire un truc hyper important et on vous a perdu.
Oui, je voulais vous dire, effectivement, le prix de l'essence, c'est ce qu'on dépense hebdomadaire ou tous les 15 jours, donc c'est visible, c'est symbolique. Mais vous savez, quand on a une voiture, c'est pas forcément le budget le plus important d'une voiture. Il y a la décote, il y a l'entretien, il y a l'assurance. Donc quand on a ça en jeu et quand on a ça en tête, c'est moins anxiogène quand on fait son plein, de se dire « Ah, mais attends, ça va me coûter 10 euros de plus ». Bien sûr que c'est 10 euros et ça fait de l'argent. Mais si on regarde tout le coût d'une voiture sur toute une année, le budget carburant, et nous, on l'a vu quand on faisait le budget de l'automobiliste, c'est pas le budget le plus important. Voilà, donc ça c'est pour être un peu moins anxiogène par rapport à ce qu'on dit.
Ah bah c'est bien, voilà.
Ça veut tout couper.
Alors est-ce que l'idée pourrait être, en démontrant avec un certificat, une attestation professionnelle montrant qu'on est vraiment un professionnel qui a besoin de la route, une défiscalisation commissionnée de frais au forfait kilométrique? J'ai fait tant de kilomètres cette année.
Quand tu parles, j'ai un mal de crâne là. Je comprends même pas ce que tu dis.
Ça veut dire j'ai fait tant de kilomètres cette année et c'est tant du kilomètre, ça prend tout. Ça prend le carburant, l'assurance, on te la voiture. Voilà. Et là, on peut dire que les gens, exactement comme une société te rembourse de tes frais kilométriques que tu as fait dans le compte de ton activité professionnelle, l'État dirait les vrais travailleurs qui sont liés à la route ont une indemnité kilométrique sur leur kilométrage annuel.
Il est handicapé.
Sauf que beaucoup de gens ne payent pas d'impôts.
De toute façon, en fait, tu oublies toujours une grande partie des gens. Et c'est bien le problème de cette mesure à laquelle manifestement personne ne comprend grand chose.
Ceux qui l'ont pensé, je pense.
Oui, c'est qu'elle oublie tout le monde. Mais je pense que ceux qui l'ont pensé, ils nous écoutent et tout d'un coup, ils se disent, mais.
En vrai, au gouvernement.
Elisabeth Borne appelle son chargé de mission au cabinet, là, qui a pondu le truc en disant qu'est-ce que cette connerie, trompe autre chose.
Tu penses bien. C'est le cas type de la formule qu'on aime tant, c'est l'usine à gaz. Là, c'en est une vraie. Usine à gaz.
Et d'ailleurs, ce matin, quand on a préparé le sujet, c'est le premier truc qu'on s'est dit. Quelle usine à gaz. Bon. Merci en tout cas, Yves Cara, d'avoir été avec nous, porte-parole de l'Automobile Club Association. On vous a posé la question, donc, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. J'ai assez peu de doutes sur le résultat. Aide ciblée sur le carburant, est-ce injuste?
Oui, c'est injuste pour 71% de ceux qui sont passés sur les réseaux sociaux.
Il y a quand même un tiers des gens qui sont satisfaits.
Il y a des gens qui peuvent aspirer à la toucher, mais bon.
Dans un instant, le zapping le meilleur d'RMC. On va vous demander si vous pensez que ça va péter. C'est ce que Macron a dit. a dit hier lors d'un déplacement. Il a un petit peu peur, Emmanuel Macron.
Ah, le président de la République lui-même l'a dit.
Ah ben tout à fait, oui. On va se demander s'il faut durcir encore la loi contre le gaspillage. Et puis, va-t-on manquer de médicaments cet hiver? L'amoxicilline, un antibiotique très utilisé chez les enfants, mais il n'y en a plus. Donc évidemment, bah, comment on va soigner nos enfants, ça je n'en sais rien.
Oui,
et puis Cyril Hanouna doit-il être sanctionné? À tout de suite pour le zapping dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est ensemble jusqu'à 15h dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Pierre-Edouard Magnan. Et tout de suite, 13h32, c'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
On va démarrer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Pensez-vous que ça va péter? Entre l'explosion des prix et les projets de réforme à l'Assemblée, la colère sociale monte. Hier, face à de jeunes Français expatriés en Thaïlande, Emmanuel Macron a fait part de son inquiétude concernant de nouvelles protestations dans la rue. Et pas de doute, pour l'éditeur de BD Mourad Boudjelal, ça va prochainement péter.
Je m'en fous pas, parce que ça va péter.
Il est lucide alors, le
c'est
président.
C'est évident que ça va péter, je veux dire. Heureusement qu'il y a, l'alibi de la guerre en Ukraine actuellement, parce que ça a permis, ça se voit dire.
Ça dilue.
Ça dilue. Mais aujourd'hui, dans le monde, dans la France d'aujourd'hui, pour celui qui vit, on est en absurdie, quoi. On est dans une dinguerie au niveau des prix. Aujourd'hui, on est en train de se demander simplement, bientôt le prix de pâte, il sera à 25€, quoi. Et on trouvera finalement sur ben c'est bien, il est juste passé de 24 à 25, on a limité la casse, quoi. Des augmentations de prix à deux chiffres, ça paraît pas beaucoup. Ça va péter à un moment, je veux dire, ça va péter, c'est obligé, je veux dire, on est en train de paupériser le pays complètement. Je pensais pas qu'on puisse arriver à un tel délire sur les prix. Voilà, et péter, ça va péter, la seule problématique c'est quand. Mais ça va péter grave.
Ça va péter, Perico.
C'est un thème qui a été recensé 100 000 fois depuis 10 000 ans. On n'a pas les paramètres déclencheurs.
Oui, c'est vrai.
C'est tout.
Enfin, alors, on les a, mais on ne sait pas lesquels.
Disons qu'on est d'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a un phénomène.
Parce qu'ils sont là. Hein.
Non, mais on sait. Les Gilets jaunes est un tournant socio-historique. On sait que dans une société de consommation plus ou moins confortable, et en France, il y a une catégorie de gens qui sont suffisamment malheureux pour en venir là. Aujourd'hui, par rapport à 2018, les conditions sont encore pires quand on fait un bilan économique, et ça tient. Alors, il y a eu la maladie qui fait que les gens se sont dit, oulala, il y a plus grave que la précarité. Il y a le virus,
COVID.
La maladie, le COVID. Un risque de guerre nucléaire à nos frontières. Donc, bon, mais ça suffit pas. Et on sait très bien que les grands chaos qui ont été déclenchés ont souvent été déclenchés par des événements mineurs, insignifiants ou aléatoires qui ont mis le feu aux poudres. Donc, oui, on est sur le volcan. Oui, on sait que la lave est pas loin, on entend le grondement. Non. Quand est-ce que l'éruption se produira? Ça, personne aujourd'hui, ni sur le plan politique, ni sociologique, ni économique, n'a le seul. Par contre, je sais que ce gouvernement a quand même le talent de déclencher les colères. Je leur fais confiance pour nous faire un petit feu d'artifice. Hein.
Oui.
Ils ont le logiciel.
Ils essayent beaucoup, en tout cas.
Ils font tout pour.
Ah oui, c'est ça.
Mais ça va finir par marcher, rassurez-les. Ça va aboutir.
Un jour ou l'autre, ils réussiront.
Il a raison de s'inquiéter, Emmanuel Macron, Pierre-Edouard.
Alors, il a raison de s'inquiéter, mais en fait, ce qui serait bien, c'est que son inquiétude crée des réponses politiques intéressantes, intelligentes et utiles. De même, moi, fondamentalement, si ça pète, ça me déplaît pas forcément, à condition que ça ne pète pas de manière désordonnée, sans organisation, à condition que ce soit bien un mouvement social collectif avec une vraie vision politique. Quand je vois l'état des partis politiques, quand je vois l'état des syndicats, quand je vois l'état des corps sociaux, je suis inquiet parce que si c'est une explosion légitime de plein d'individus qui partent dans tous les sens, fondamentalement l'échec politique du mouvement des Gilets jaunes, je partage ce que tu viens de dire, mais il y a un échec politique quand on regarde très bien l'aboutissement.
C'était pas géré.
C'est juste, oui, et parce qu'ils ont refusé que ce soit géré, parce qu'en face, il n'y avait aucun corps social qui était prêt à le gérer, parce qu'au départ, les syndicats ont été méprisants à leur égard, considérant que c'est une bande de ploucs inorganisés, donc des fascistes, puisque si t'es pas un syndicat, t'es un fasciste. Donc, ils ont rejeté. Quand ils ont voulu se revenir, évidemment, ils se sont pris des claques. Donc, le vrai sujet, effectivement, il est là, c'est quelle réponse politique ou quelle nouvelle ligne politique si un mouvement social émerge. Et après, effectivement, attention, parce que on parle effectivement, aujourd'hui, on est bien pire qu'à l'époque Gilets jaunes et ça ne bouge pas. N'oublions pas ce qui s'est passé en Grèce, où globalement, le corps social a tenu quand on voit ce que les Grecs se sont pris dans la tête.
C'est vrai.
Nous, à côté, c'est de la rigolade et ça a tenu. La capacité de résistance du système dans lequel on vit est assez stupéfiante.
Alors, juste un mot sur l'échec politique, je suis pas sûr. Je pense que la majorité relative à l'Assemblée nationale aujourd'hui est une conséquence directe des Gilets jaunes qui a créé un mécontentement.
C'est vrai.
Emmanuel, est-ce que vous avez peur que ça explose?
Bah, alors, Moi, j'y crois pas, en fait. J'arrive pas à y croire. Pourtant, j'entends tout ce qui se dit et je serais effectivement peut-être pas mécontente si ça pèterait, mais je sens pas les Français partis pour ça. Il y a tellement de choses qui nous tombent dessus, qui nous plombent, et notamment des problèmes d'inflation, des problèmes de budget.
On a la tête dans le guidon.
Je sens pas.
Bah, c'est déclencheur, ça, au contraire.
Tromper. Mais tu sais, tu disais, on sait pas quels sont les éléments déclencheurs. Et c'est pas toujours des incidents. Je veux dire, quand en Iran, t'as une jeune femme qui se fait assassiner parce qu'elle a une mèche qui dépasse du voile, quand le printemps arabe démarre parce qu'un jeune marchand de primeurs est mort.
S'immole
par le feu, exactement. Donc effectivement, c'est parce quels sont les éléments déclencheurs. Mais là, d'accord, il faut qu'il y ait une allumette et qui allume la mèche. Mais je vois pas la mèche, en fait. Je vois pas la bombe. Enfin, je vois la bombe, mais je les sens pas, moi, les Français.
On les a jamais vus dans l'histoire.
On va voir.
On les a jamais vus dans l'histoire.
C'est vrai.
Ouais, mais là, pour l'instant, regarde, il y a eu des occasions.
Des appels.
Et des tentatives. Et des tentatives. Et Mélenchon.
Ça n'a pas du tout marché.
Parce que c'est pas un bouton.
Ça a été un
pchit énorme.
Aucun leader syndical n'a lancé mai 68.
Non.
On veut remonter un mouvement qui, quoi qu'on en pense, mais aucun, est un vrai mouvement social collectif.
Auquel débat. C'est parti d'une université où on a refusé la mixité des dortoirs à des filles, à des garçons.
Scandale d'ailleurs. Ouais.
Mais ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas participé aux Gilets jaunes non plus.
Non. Ah, mais ils ont même refusé en même temps mai 68. C'est trop violent. Communiste en mai 68, c'était moyen. Enfin bref, on va pas.
Moi, j'y crois pas.
Même la Bastille, c'est un accident.
Même en 36. Effectivement, même en 36, n'oublions pas, il faut savoir finir une grève. Enfin, le Parti communiste, puis à l'époque, en 36, c'est quand même autre chose qu'aujourd'hui, qui est obligé de dire, il va quand même falloir finir la grève, les gars, parce qu'il faut qu'on prenne le boulot. Donc...
Charles Matin, ce matin, va-t-on manquer de médicaments cet hiver? C'est l'alerte lancée par l'Agence nationale du médicament qui déclare qu'il y a déjà une pénurie d'amoxicilline, un antibiotique très utilisé pour les enfants. En cause, des problèmes de production dus au coût de l'énergie, et ça risque de durer, selon Pauline Londex. Elle est la cofondatrice de l'Observatoire de la transparence du médicament.
Certains sites ont fermé pour ces raisons. Et tout le monde sait que la crise de l'énergie, on n'en voit pas forcément la fin. Donc c'est ça notre grande inquiétude, c'est-à-dire on aura des stocks peut-être qui vont arriver début 2023, mais est-ce que ce sera suffisant et est-ce qu'on risque pas d'avoir d'ici là beaucoup d'autres pénuries sur beaucoup d'autres médicaments essentiels ?
Peut-être à 2 ans de plus.
Péricot, évidemment ça va de pair avec la désindustrialisation de la France dont vous parlez tant.
C'est la conséquence directe, merci de le signaler. J'avais oublié.
J'étais en train de
vous êtes là.
J'avais oublié ce que je pense.
Il faut que la réaction ait raison.
Non, mais attendez, je suis désolé, vous tournez ça en dérision.
Mais je ne tourne pas ça en dérision du tout. Je tiens à dire, vous avez raison.
Mais pas du tout. Non. En plus, pour l'amoxicilline, c'est un médicament ORL, il y a eu des bronchiolites, c'est ça qui a engendré. S'il n'y a pas d'amoxicilline cet hiver, pour des maladies. Mais le fait, c'est d'en arriver là. Vous vous rendez compte, ce sont des carences. Ouais. Mais on se croirait au 19e siècle.
Et un jour, c'est
le pain qui va manquer. Un jour, ça va être le sucre, ça va être l'huile. Vous voyez, on est dans des carences basiques. Et l'industrie pharmaceutique, c'était un des fleurons de l'économie française. Ouais. On était parmi les meilleurs du monde. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors oui, je vais vous ressortir ma litanie. On a désindustrialisé, c'est la mondialisation. Moi, j'étais persuadé que l'Union européenne, l'Europe à laquelle je crois toujours et pour laquelle je suis affirmant, pas celle-là, je pensais que ça allait nous protéger de ça. Au moins ça, voyez. Non. Et puis non, et on voit bien que même sur le Covid, alors c'est vrai que ça a pu servir à un moment donné, mais ça a aussi été un retard à la vaccination. Donc je comprends pas comment il n'y a pas une meilleure cohérence de toutes ces puissances économiques en Europe. Ce sont des grands pays. L'Allemagne, l'Angleterre, quand elle y était, on va manquer de médicaments, de d'antibiotiques.
On a délégué notre santé à d'autres. Et la amoxicilline, enfin, je pense tous les
très bien ce qui s'est passé.
Tous les parents qui ont des gamins ont des bouteilles de sirop. Parce que moi, à chaque fois que j'allais voir le médecin pour mes gamins, c'est à chaque fois ce qu'on me prescrivait, le sirop, donc amoxicilline pédiatrique. Et là, je suis en train de me dire, j'espère qu'il m'en reste une ou deux bouteilles, mais je ne suis pas sûre. Et voilà, en plus, effectivement, elle avait raison, la dame, de dézoomer de l'amoxicilline, il y a ça. Mais ça va toucher d'autres médicaments.
Il va y avoir le reste, en fait.
Ils n'auraient pas dû donner le nom du médicament.
Et puis du coup, c'est déjà le cas, parce que moi, ma femme me disait qu'hier, à la sortie de l'école, c'était déjà un des gros sujets de discussion, que du coup, les parents font le tour des pharmacies, que du coup, il y a déjà des pénuries dans les pharmacies, mais là, c'est le phénomène, quand on annonce une pénurie,
et voilà.
On se consomme et elle arrive...
Il faut une ordonnance. Ça veut dire qu'il y a des médecins complaisants qui vont faire de fausses ordonnances pour faire du stock d'amoxicilline.
Il faut des ordonnances renouvelables. T'as des ordonnances effectivement renouvelables, donc tout le monde effectivement en cherche. On va peut-être demander aux pays qu'on appelait du tiers-monde de bien vouloir nous approvisionner en médicaments, finalement. Non, parce
que mais il n'y a pas que l'amoxicilline, il y a des médicaments très très pointus.
Oui,
sur des pathologies rares.
C'est un médicament de très grande consommation.
Il y a énormément d'attentes, donc t'es obligé de prévoir, en fait, de commander deux fois plus.
Et certains excipients viennent que de l'Inde ou de la Chine, et qu'il y a une carence d'excipients parce que ces pays n'en ont besoin pour eux, ne les exportent plus.
Faut-il encore durcir la loi contre le gaspillage? C'était dans Apolline Matin ce matin. Bien que des progrès aient été faits, une nouvelle proposition de loi sera déposée aujourd'hui par Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Elle a pour but, cette loi, d'obliger davantage de magasins à donner leurs invendus à des associations. L'élu rappelait ce matin sur RMC le coût astronomique du gaspillage en France.
Aujourd'hui encore, dans le monde, une personne sur dix a du mal à se nourrir et on s'aperçoit que encore aujourd'hui, ce gaspillage coûte 16 milliards d'euros par an et en France. On doit réduire de moitié encore. 16 milliards, c'est quasiment le budget du filet de sécurité énergétique, donc ce n'est pas rien. Moi, je vais vous dire, je suis un enfant de Coluche des années 86 et c'est vrai que quand Coluche disait « c'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien », je suis dans cette droite ligne. Chacun dans ce pays a les moyens d'apporter sa petite pierre à cet immense édifice qu'est le gaspillage alimentaire.
Il a raison, Perico, faut en faire plus contre le gaspillage.
Alors, je vais aller un petit peu plus loin que lui. Si on évitait le déballage de surconsommation à laquelle nous pousse la surconsommation avec la publicité, parce qu'on nous demande de consommer et on nous explique que si nous ne consommons pas telle quantité de tel produit, on n'est pas dans le coup. Donc on va déjà gérer, nous, notre façon de consommer et la façon de distribuer. Là, vraiment, c'est le problème de distribution. On n'est pas obligé d'acheter les pots de yaourt par 24 et les litres de lait par 12. Est-ce qu'on peut se mettre dans la tête une fois pour toutes, et c'est une nécessité planétaire, pouvons-nous consommer et produire uniquement ce dont l'humanité a besoin? On est 8 milliards depuis quelques jours.
Mais comment tu fais? Comment tu vas dire ça aux industriels?
Ah non, mais ça... Attendez, ça s'éduque, ça se décide, ça se régit. Et les industriels sont les premiers à le mettre en place. Ils auront leurs bénéfices. Ils auront leurs bénéfices sans faire de mal. Mais c'est une éducation. La consommation aujourd'hui va devenir, et c'est mon tabou depuis longtemps, les classes du goût, moi je me limite à ça, il faut apprendre à lire, à écrire, à compter et à consommer. Il faudra dire aux enfants qu'ils sont dans toutes les écoles, apprenez à consommer, apprenez à vous habiller, apprenez à rouler,
apprenez à gérer un budget. Apprenez, on en parlait encore hier dans l'émission.
À gérer un budget, à gérer le robinet d'eau, à gérer le chauffage, à gérer, voilà.
Un cours de gestion.
Mettez-vous un pull, alors le col roulé, on s'est foutu de la gueule de Le Maire, mais c'est vrai, trimballez-vous avec une couette dans votre salon, puis comme ça vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Et s'il fait froid, mais enfin, en tout cas, il faudra gérer tout ça. Et Carl Olive, voilà. Et quant au gaspillage, 7% de ce que l'on consomme frais, non périmé, est jeté chaque année à la poubelle. 7%.
67 euros par mois et par Français de gaspillage alimentaire. Mais quand vous savez ça, et que vous entendez, après, vous mettez ça en parallèle avec les Français qui n'ont plus rien le bout du mois... c'est quand même hallucinant. Il faut évidemment en faire plus. Oui. Et il a raison. Ne serait-ce que les emballages.
Il a raison. L'individu a sa part de responsabilité. Effectivement, il faut éduquer à des bonnes pratiques qui ne sont plus celles d'il y a 40 ans. Il y a aussi la responsabilité des structures dans lesquelles on vit, de l'industrie agroalimentaire. Effectivement, tu évoquais les emballages. C'est effectivement un vrai sujet. Il y a aussi un sujet autour des dates
de péremption.
Pas toutes des dates de péremption qui peuvent être des dates limites d'utilisation optimale, etc. Mais qui en plus ne veut pas dire qu'un produit est effectivement inconsommable. Mais il y a un vrai sujet là-dessus parce qu'en fait, c'est beaucoup truc soi-disant périmé, est-ce qu'on a peur?
Et là, c'est la loi.
Parce qu'on nous fait peur. Là, c'est la loi. Parce qu'on pousse effectivement à la consommation. Effectivement, là-dessus, il y a à la fois un travail sur les individus, on a tous notre part de responsabilité, mais ça ne suffira jamais si derrière, il n'y a pas un changement de fonctionnement, y compris de fonctionnement, notamment, je pense, à l'industrie agroalimentaire, mais pas que.
Alors, vous avez raison. Vous faites hyper gaffe, vous, Emmanuel.
Bien sûr que je fais hyper gaffe. Et surtout, moi, ce que je voulais juste saluer, parce que tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec, saluer les start-up qui se mettent en place depuis quelques temps déjà pour nous proposer. C'est là que je cherchais notamment, mais ils ne sont pas tout seuls, pour poser des paniers de produits bientôt, a priori périmés, mais finalement pas tant que ça, et auxquels tu peux avoir accès pour moins cher, et au moins que ça soit pas perdu.
Les grandes surfaces de fond, vous avez un local avec à 2 ou à J-2, J-3 de péremption, on met 50% sur le produit,
et ça permet à des gens... Un endroit dans le magasin.
Un jour, j'ai eu mauvaise conscience, j'ai pris quelque chose dont j'avais besoin, et je l'ai pris dans le panier à réduction, et j'avais mauvaise conscience, mais bon...
Ah non, au contraire.
Non.
Vous n'avez pas été malade?
Ah non, j'avais mauvaise conscience d'avoir bénéficié d'une réduction.
Là. Ah oui, alors que t'en avais pas forcément besoin.
Oui, mais faut que ça parte. Mais au moins ça part. Enfin voilà, il vaut mieux que ça parte chez toi qu'à la poubelle.
Pour la loi du député.
Exactement, donc bravo à Carl Olive pour cette loi. Dans un instant, le journal décalé de Paul Lassen qui a fait le tour, rien que pour nous, de la presse quotidienne régionale. Et puis à 14h, on parlera du retour des Michel. Michel Sardou, Michel Polnareff, une tournée, un nouvel album. Est-ce que c'est retour des deux Michel? Vous trouvez ça formidable ou pathétique? On attend vos réactions au 32-16. A tout de suite dans Estelle Midi.
C'est le retour d'âge.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50 dans Estelle Midi. Et c'est le moment d'accueillir Paul Lassen pour le journal décalé. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le journal décalé.
Paul Lassène qui a fait pour nous le tour de la presse quotidienne régionale. Il y avait encore des pépites hein, cette semaine.
Ouais, salut à tous et j'ai une super bonne nouvelle pour commencer, Estelle. On est champion du monde.
Ça
l'étonnerait, la Coupe du Monde n'a pas de recette.
Vous me regardez très mal, la Coupe du Monde démarre dimanche. Je sais, ne me regardez
Qatar,
pas.
Qatar-Équateur.
Les Bleus jouent mardi soir à 20h. Nous, on est champion du monde dans un domaine beaucoup plus intéressant que le football.
Oula.
C'est le Jean-Luc Petit-Renaud qui sommeille en moi, qui gibule, qui jubile. Pardon. Et oui, car le week-end dernier, nous avons gagné le titre du meilleur œuf maillot du monde.
Ah, génial.
Félicitations.
Et t'es venu les mains vides.
Grégoire Simon de la Grande Brasserie, j'ai une proposition à vous faire à la fin. Rue de la Bastille, dans le 4e arrondissement. Mmh. Alors, je vois Perico me regarder. J'imagine que vous voulez un peu plus de détails. Eh bien, à l'heure actuelle, il n'y en a pas plus, notamment sur la mayonnaise, malheureusement. On sait que c'est ça qui fait en général la différence.
Secret fabrication, attention.
Tout ce qu'on sait,
et la cuisson de l'œuf.
C'est que cet œuf est également servi avec du céleri rémoulade.
Oh, j'adore.
Ah, je déteste ça.
Ah, ben, tant pis pour vous.
Si on en mange, je vous donnerai mon céleri, vous me donnerez vos œufs.
Non.
Bah,
je prendrai tout.
D'accord.
Bah, qui c'est qui est. Qui c'est le patron ?
C'est qui,
c'est qui le patron ?
Et l'œuf sortait du cul de la poule, j'espère quand même. Oui, ça c'est un œuf de poule. Hein.
Non,
parce que maintenant ils mettent des œufs de canard et des œufs de poule.
Vous allez aider nos excellentes audiences là-bas bientôt.
Ah, super. Ah, parfait.
Ouais. Vous l'avez tous, évidemment, pas du tout.
Vous l'avez fait à l'œuf maillot ?
Non.
Autre info, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques semaines, je vous parlais de l'entreprise BMW qui avait proposé à ses salariés de jouer une sorte de grande tombola pour offrir le cadeau de leur rêve.
Ah,
ce mercredi, le tirage au sort a eu lieu. C'est ce que nous raconte le journal de Saône-et-Loire. Et sur les 1100 salariés de la boîte, c'est une femme qui a remporté le gros lot. Cette salariée, c'est Christelle. Elle a 58 ans. Elle vit à Saint-Marcel, en Saône-et-Loire. Et est-ce que vous avez une idée de ce qu'elle a pu demander et gagner?
Je sais.
Si tu sais.
Je dis pas.
Petit
mais c'est la Bourgogne. Je sais.
Perico.
J'ai pas la moindre idée.
Ah, c'est quelque chose d'important.
Oui. Bah, je sais pas, moi, une voiture, une maison.
Ouais.
Une maison. Pas de voyage à l'autre bout de la terre comme avait. Oh, jolie production. Merci, Donatien.
Ouais,
bah,
on progresse.
Pas de. Oui, il faut qu'on a du budget. Pas de voyage à l'autre bout de la terre comme l'avaient demandé beaucoup des salariés. Pas de voiture de luxe non plus. Alors, on n'en sait pas plus sur. Quel type de maison?
Oui,
évidemment, l'entreprise est assez
discrète. On a le prix ou pas?
Non, on n'a pas le prix.
Ah oui, d'accord.
On est tous contents pour elle autour de la table. Moins ses collègues qui ont témoigné dans des reportages télé, où on sent qu'ils disent qu'ils sont contents, mais ils ne sont pas vraiment.
Bravo à elle.
Je l'ai fait la dernière fois et je relance cet appel à la direction de RMC. Hein, s'ils veulent nous offrir le cadeau de nos rêves, évidemment, on est preneurs. Et on n'est pas très demandeurs. Ouais. Il nous faut des plaisirs simples.
Oui, bien sûr. Bah, moi, une petite maison sur une plage, genre, ça me va.
Non, des deux Haribo.
Des œufs mayonnaise avec une céleri rémoulade.
Un grand paquet de Haribo.
Des œufs mayonnaise avec une céleri rémoulade.
Aussi, ça peut le faire.
Autre événement cette semaine, et pas des moindres, notamment pour ceux qui ont des enfants.
Ah
bon? Ben oui.
Le Beaujolais
nouveau. Qu'est-ce qui se passe?
L'allocation d'entrée scolaire.
Alors,
c'est quoi ça?
La prime de Noël.
C'est ni le Beaujolais nouveau, ni l'allocation de rentrée scolaire.
Mais c'est pas Noël encore.
Les enfants peuvent depuis cette semaine écrire au Père Noël. Perico m'a avoué en antenne qu'il avait déjà envoyé sa lettre.
Ah, yes, il a demandé à QG réception.
Et la presse cette semaine se fait écho des lettres les plus insolites que les enfants ont envoyées à celui qui nous gâte tous les 25 décembre. Il faut savoir par exemple qu'en 2021, plus d'un million de lettres ont été envoyés au Père Noël. Alors on commence avec le jeune Thomas. Bonjour Père Noël, je m'appelle Thomas. Ça commence par un T comme très gentil, ça finit avec un S comme ça. Je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup les cadeaux. Est-ce que tu peux m'en donner s'il te plaît? Je sais pas trop ce que je veux. Alors apporte-en plein que je puisse faire mon choix. Une autre lettre d'un autre enfant. Sais-tu que tu n'as pas le droit de faire travailler les lutins le dimanche? Je te conseille de m'apporter tous les jouets figurant sur la liste, sinon je t'envoie à la police. Très sympa, très pragmatique. Un autre enfant a lui, de façon très mignonne, envoyé les clés de chez lui pour éviter que le Père Noël passe par la cheminée.
Oh, les parents, ils ont dû être contents.
Il a demandé un kit d'alarme pour les Noël.
Et autre info, il n'y a pas que des enfants qui écrivent. Mamie Nicole, 79 ans l'an dernier, qui réclame des connaissances, tout simplement. Pourquoi? Bah pour pouvoir participer au jeu de Jean-Luc Reichmann.
Oula.
Ah oui. TF1 à midi. Elle demande aussi le numéro de l'animateur pour pouvoir échanger avec lui. Enfin,
on va lui donner qu'elle nous appelle.
Et puis des protections pour perse aussi, elle peut en avoir besoin.
Et enfin, dans une toute autre ambiance, Jérémy, qui a une quarantaine d'années, a demandé tout simplement au Père Noël un joint de 4 mètres de long. Évidemment, c'est pas bon pour la santé, il ne faut
pas. C'est un enfant qui a demandé ça.
Non, une quarantaine d'années.
Ah oui,
pas du tout.
Si, écoutez, mais...
Qu'est-ce qu'il y a dans votre lettre au Père Noël, Estelle?
Je ne sais pas, mais je vais commencer à la faire. Mais, vous savez, j'ai mon anniversaire déjà avant. Moi, j'ai pas de chance. Je suis née en décembre. Alors, vous savez, les gens me disent, bah tiens, ça fera anniversaire et Noël.
Enfin,
écoutez, je vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, c'est pas facile tous les jours.
J'ai très envie de pleurer, mais je vais m'arrêter.
Ouais, arrêtez-vous.
Je vais aller pleurer.
Mais c'est déjà fini.
Mais
regardez le chrono. Il y a
quelque chose. Je voudrais bien qu'on invente la Mère Noël et qu'Emmanuel Dancourt nous fasse la Mère Noël aux enfants des RMC.
Ça serait très bien.
Bah, écoutez, super. Bon, Paul Lassène, donc tous les vendredis, 13h50 dans Estelle Midi, et à partir de lundi, c'est Paul Lassène qui fera la minute conso de Stéphane Pedrazzi.
J'ai l'impression.
Qui est en vacances. Donc,
il m'a mis la pression, j'ai très peur.
L'audience va exploser. L'audience va exploser.
Oui, mais dans le mauvais sens. À 13h50. Dans un instant, on parle des retours des Michel Sardou et Paul Naref. Une tournée pour le premier, un nouvel album pour le deuxième. Est-ce que vous trouvez ça formidable ou pathétique? Vous êtes plutôt équipe Sardou ou équipe Paul Naref? Vous nous appelez, bien sûr, vous réagissez.
Je peux pas rester
32-16. Je comprends pas pourquoi on m'a mis du Paul Naref et pas du Sardou.
Je peux pas rester pendant un débat.
Mais c'est
pas
ça donne peut-être une idée de l'orientation de la
régie. Moi, je suis Jim Céline.
Ah, c'est ça. La régie est Paul Naref.
Voilà.
Pour toi, ça.
Un peu Sardou quand même. Moi, je suis Tim Sardou en fait. Bon, enfin bref. Vous nous appelez, vous réagissez au 32-16 et sur l'application RMC. Formidable ou pathétique?
Vous êtes
oui, restez peut-être. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.